Radio Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous parlerons dans ce journal des échanges hier à Kinshasa entre la défenseur mondiale de la paix des Nations Unies et les femmes leaders des différentes organisations sociopolitiques en RDC. Thème abordé, investir dans les femmes, c'est investir dans la paix. La coopération médiatique entre la RDC et la Chine est au beau fixe. Nous en voulons pour preuve l'organisation par l'Agence congolaise de presse et l'Agence de presse Chine Nouvelle d'un premier forum des médias de 2 jours à Kinshasa. Cela fait 2 ans depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises. 2 ans après, le gouvernement, à travers son agence de pilotage, vient de lancer l'audit technique et financier de ces vastes projets. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont analysé cet audit. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour à tous. Nous commençons ce journal avec la femme. Mois de la femme oblige. Session d'échange hier mardi à Kinshasa entre la mandataire mondiale de Nations Unies pour la paix, Mariam Boukar Hassan, et les femmes leaders des différentes organisations sociopolitiques en RDC. Thème abordé, investir dans les femmes, c'est investir dans la paix. Au cours de cet échange, plusieurs interventions au niveau des panels ont souligné la problématique de l'accès des femmes à la justice et analyser comment investir dans les femmes pour une paix durable. Mariam Boukar Hassan, poétesse originaire du Nigeria, a été l'une des animatrices de cet échange. Elle utilise l'art comme outil de dialogue, de guérison et de changement social. C'est dans ce contexte qu'elle a partagé avec l'assistance l'importance de sa vision pour soutenir les jeunes femmes congolaises confrontées aux affres de la guerre. Mariam Boukar Hassan s'explique au micro d'Askin Zigbatayoro.
Une chose est claire, les femmes sont prêtes à faire partie intégrante et à être un pilier de résilience, un pilier pour la reconstruction du Congo. Pour moi, c'est important d'être sur place, de venir justement ici au Congo et ailleurs pour mieux m'informer sur la situation des personnes dont je veux aider à élever la voix. Pour moi, c'est important de comprendre leur contexte, leurs souffrances, leurs défis, mais aussi leurs rêves. Après ça, je peux mieux travailler sur comment élever leur voix auprès des instances nationales, mais aussi surtout internationales à travers ma voix dans différents forums internationaux et aussi sur mes plateformes sociales qui sont très suivies. Par rapport à mon travail, nous nous sommes mis d'accord avec les femmes que j'ai rencontrées à Bounia notamment, de les intégrer dans ma plateforme True My Voice, qui est une plateforme qui aide les jeunes poètes, mais aussi artistes, pour élever la voix des personnes en difficulté et des femmes. C'est ce que j'ai fait à Bounia notamment avec des femmes qui sont des défenseuses de paix, des défenseuses des droits des femmes, qui elles sont aussi confrontées à beaucoup de traumas des personnes qu'elles reçoivent et nous avons travaillé ensemble justement pour les aider à se reconstruire elles-mêmes pour qu'elles puissent aider d'autres personnes.
Parlons toujours de la femme, notez le nom de ce projet. Il est intitulé « Appui à la cohésion sociale et à l'autonomisation des groupes vulnérables à Béni ». Ce projet de 3 mois a été lancé hier mardi à Béni, dans le Nord Kivu, au profit d'une 50aine de femmes en situation de vulnérabilité. Initié par l'organisation AFNAC, il vise bien sûr à renforcer l'autonomie de ces femmes afin qu'elles deviennent capables d'assurer leur prise en charge. Marc Maroufimbo nous en dit plus.
Les projets composés de plusieurs activités génératrices de revenus, élevage de petits bétail, coupe-couture, pâtisserie et petits commerces. Parmi les bénéficiaires figure Marie-Thérèse, femme pygmée qui a opté pour l'élevage de petits bétail. Elle exprime sa satisfaction. De la façon qu'on nous appuie, nous demandons qu'ils ne cessent de nous accompagner. Les femmes pygmées remercient ce projet d'élevage des petits bétails car c'est vraiment du domaine d'une femme pygmée. Une autre bénéficiaire, Massika Kavuo, veuve, estime que ce projet constitue un soutien essentiel à la stabilité économique des ménages dirigés par des veuves. Ça fait longtemps que nous autres sommes veuves, mais voilà que nous avons un projet qui nous sera très utile pour prendre en charge nos enfants et nos petits-fils dans les jours à venir. Pour la coordinatrice de la FNAC, ce projet répond aux nombreux plaidoyers menés auprès des partenaires afin d'appuyer ces femmes vulnérables, majoritairement des déplacés de guerre. Benyam Kenger estime que cette initiative vise à renforcer la résilience économique de ces femmes et à encourager leur autonomisation durable dans un contexte où la précarité affecte fortement les familles vulnérables de la région de Beni. Marc Maroufimbo, Beni, Radio Okapi.
Puisque nous sommes toujours en plein mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes, coup de projecteur sur celles qui transforment positivement leur communauté. À 70 ans, Anne-Marie Moulikalé, vous allez la découvrir, incarne cet engagement. Depuis plus d'un demi-siècle, elle consacre sa vie à l'éducation des enfants à l'école primaire Moudzipela à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Portrait d'une enseignante passionnée, signé Jean-Claude Lokidile.
Dans cette école, tout le monde connaît maman Anne-Marie Moulikalé. Depuis 51 ans, elle consacre sa vie à l'éducation des enfants. Chaque matin, malgré le poids de l'âge, elle est parmi les premières à arriver à l'école. Un métier exigeant, mais qu'elle exerce avec passion.
Tout d'abord, c'est le travail que le Seigneur m'a donné. Le jour où il voudra, à ce moment-là, je vais me reposer. Et ce n'est pas un travail facile. La nuit, tu te lèves pour que tu sois en ordre devant les élèves. Même si on est malade, on part.
Son engagement dépasse largement les murs de la salle de classe où elle enseigne. Jean-Claude Lobo, son supérieur hiérarchique qui travaille à ses côtés depuis 15 ans, l'a décrit comme une enseignante modèle.
Elle est d'abord ponctuelle, régulière en matière de tenue des documents. Elle tient correctement.
Au fil des années, plusieurs de ses anciens élèves sont devenus enseignants, infirmiers ou encore cadres. C'est le cas de Willy Bati, son fils aîné.
Avec ses petits-enfants, elle continue avec les mêmes rigueurs qu'elle nous a éduqués avec. Elle a le réflexe toujours de nous corriger. Elle me répond toujours que je suis une éducatrice.
Après plus d'un demi-siècle au service de l'éducation, Anne-Marie Moulikalé continue, malgré le poids de l'âge, de transmettre savoir et valeur aux jeunes générations. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la coopération médiatique entre la RDC et la Chine qui est au beau fixe. Nous en voulons pour preuve cette première à Kinshasa. C'est l'organisation par l'agence congolaise de presse et l'agence de presse Chine Nouvelle d'un premier forum des médias de deux jours à Kinshasa, soit du 18 au 19 mars 2026. Au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi au siège de l'ACP, le directeur général Bienvenu Bakoumania a fixé le thème du forum « Modernisation à la chinoise et voie des développement de la RDC, exploitation conjointe de nouvelles trajectoires gagnant-gagnant. Ce forum réunira plus de 200 journalistes et des experts. On écoute Bienvenu Bakoumania au micro de Richard Junior Kamunga.
Ce forum fait suite aux accords historiques signés entre l'agence congolaise de presse ACP et l'agence Xinhua Chine Nouvelle en présence du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping en septembre 2023 à Pékin en Chine. Ce forum n'est qu'une rencontre formelle. Il vise à transformer le récit national et international autour du partenariat sino-congolais à travers la présentation de la RDC comme un acteur majeur du sud global et une terre d'innovation et non plus simplement comme un réservoir de matières premières. La mise en lumière de la contribution réelle et souvent méconnue des investissements chinois dans l'économie nationale congolaise. Le renforcement du réseau opérationnel entre l'agence congolaise de presse et Xinhua pour raconter nos réalités avec nos propres mots. À l'ère de l'intelligence artificielle, ce forum souligne la volonté de la République démocratique du Congo et de la Chine de ne pas rester en marge de la révolution technologique.
Et puis, les organismes chargés de gérer la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières à l'école de la bonne gouvernance. La ministre des Affaires sociales et humanitaires, Eve Bazaï Bamassoudi, recommande aux organismes chargés de gérer la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, appelées couramment DOT, de faire preuve de bonne gestion et de transparence afin d'améliorer l'accès aux services sociaux des bases et contribuer au renforcement d'un climat de paix entre les entreprises minières et les communautés impactées par leurs activités. Cette recommandation a marqué la clôture de 3 jours des travaux organisés à Kinshasa sur le fonctionnement et la gestion de ces organismes par le ministère des Affaires sociales et celui des Mines. On écoute F. Bazaïba au micro de Jean-Marc Matouaki.
Personnellement, je ne ménagerai aucun effort pour l'atteinte des résultats pour le développement communautaire de notre population à travers cette ressource que la nation a mise à disposition à travers les codes miniers, le règlement minier et tous les autres textes y afférents. À cet effet, les organismes spécialisés d'OPAMSIC sont considérés comme des instruments privilégiés de ce développement à la base. Les projets financés par cette dotation, ces projets aident pour améliorer l'accès aux services sociaux de base et tisser un lien de solidarité entre l'industrie extractive et les communautés. Ils sont aussi les leviers qui contribuent à la paix sociale.
Pour sa part, le ministre des Mines, Louis Wantoum Kabamba, a insisté sur le respect des valeurs de patriotisme, d'intégrité et d'obligation des résultats pour améliorer la gouvernance du secteur minier. Il a également réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes afin de faire du secteur minier un véritable moteur du développement économique et social. La route Luama à Kindu, dans la province du Maniema, fortement dégradée et cela dure depuis plusieurs années. En tout cas, cette voie d'intérêt communautaire se détériore de jour en jour au grand désarroi des habitants de Kindu, mais surtout des usagers de ces tronçons, étudiants de l'université de Kindu, cultivateurs, commerçants et conducteurs. Après les fortes pluies de lundi dernier, emprunter cette route est devenu un véritable casse-tête avec des conséquences négatives sur les activités universitaires et économiques. Ainsi, les usagers appellent les autorités provinciales à accélérer sa réhabilitation. Florence Kizalunga est passée sur cette route lundi. Voici son reportage.
L'état de la route Luama laisse à désirer. Ravins, boue et flaques d'eau rendent la circulation quasi impossible. Rares sont les conducteurs de motos et de véhicules qui acceptent d'emprunter cette voie. Les passagers qui prennent le risque de monter sur des motos sont éclaboussés au point que certains ont développé des stratégies pour éviter d'être salis, allant jusqu'à prévoir de vêtements de rechange. Un étudiant témoigne.
Nous les étudiants, nous souffrons beaucoup pour aller au cours. Nous sommes obligés d'apporter des habits et même porter des sachets aux pieds pourvu que nous soyons un peu présentables au cours. La condition de la route n'est pas bonne. De la boue, de l'eau sur la route et même dans la saison sèche, la poussière n'en parlons pas.
La dégradation de cette route a également poussé les transporteurs à augmenter les prix, déplore cet autre usager qui exige l'implication urgente des autorités.
Une course que l'on payait auparavant à Luamadé coûtait 1000 francs et à Luama 1 aussi 1000 francs. Mais maintenant, nous commençons à payer 2000 francs pour l'OMA 2 et 1500 pour l'OMA 1.
Pour rappel, le gouvernement provincial avait annoncé il y a quelques mois, lors du lancement des travaux de réhabilitation de la route Kindu-Kibombo-Samba-Kasongo, que la route Luama figurait également parmi les voies à réhabiliter. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Rien ne va non plus du côté du Kasaï central. La route nationale numéro 1, coupée en deux par un ravin sur les tronçons reliés à Chingana, au secteur de Bulungu, dans le groupement Benanganza. La circulation est fortement perturbée sur cette portion de route, axe pourtant stratégique qui relie la province du Kasaï central à celle du Kasaï. Face à cette situation, la société civile locale appelle les autorités à une intervention urgente. Détail dans ce reportage d'André Katende Ngalamulume.
Selon des sources locales, la situation résulte des fortes pluies qui se sont abattues dimanche et lundi dernier dans la région. Cette coupure de la route constitue un véritable calvaire pour les usagers. Près de 20 camions poids lourds sont actuellement bloqués sur cet axe. La société civile du territoire de Kazumba dénonce cette situation. Gentil Basukwamba, acteur de la société civile locale, appelle les autorités provinciales à une intervention rapide.
Cette situation perturbe gravement la circulation des personnes et des marchandises sur cet axe national. Pour maintenir provisoirement ces deux parties de la route, nous demandons une intervention urgente consistant à mettre des cailloux et des pierres, comme cela avait été fait auparavant au niveau de la rivière Miao.
Depuis ce matin, les convoyeurs et chauffeurs des camions immobilisés tentent d'aménager une déviation provisoire afin de permettre le passage de véhicules face aux difficultés rencontrées sur la route principale. Kananga, André Katendinga Lamulme, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF a décidé mardi 17 mars en fin de soirée de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique et de l'accorder au Maroc, finaliste malheureux de la CAN 2025 à domicile en raison des débordements dont les joueurs sénégalais se sont rendus coupables durant la rencontre. Une décision que dénonce Claude Leroy, expérimenté entraîneur. On a tous honte, lâche-t-il à RFI, étriant au passage la FIFA, la CAF et les décideurs.
L'invité.
14 mars 2024, 14 mars 2026, cela fait deux ans depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises, augmentant l'investissement dans les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Deux ans après, le gouvernement, à travers son agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, vient de lancer l'audit technique et financier de ces vastes projets. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont analysé cet audit. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Patrick Lumumba, vous êtes directeur en charge des opérations de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis de conventions des collaborations APCSC en sigle. Qu'est-ce qui motive le lancement de cet audit technique et financier de ces contrats sur la période 2008-2024?
La lecture que nous faisons de renégociation du programme sino-congolais porte à la fois une lecture nuancée qui nécessite des critiques, mais à la fois le pragmatisme que cela exige. Et nous avons dit que nous n'avons pas tout obtenu après les renégociations de ce programme. Il y a quand même certains acquis qu'il faut reconnaître, parce que nous partons d'une estimation qui a été faite de 1 milliard et demi et nous allons vers 7 milliards. Ce n'est pas rien du tout quand même. Mais ce qui nous motive maintenant, c'est de se dire qu'il faudrait que cette partie financière puisse rencontrer quand même les préoccupations de la partie congolaise liées à la mise en œuvre des infrastructures. C'est là qu'il y a quand même un déséquilibre qu'il faudrait quand même que l'on comprenne sur les éléments de la production et sur l'impact que cela crée dans la réalisation des infrastructures.
Oui, mais est-ce que vous vous êtes concerté avec le partenaire chinois avant d'initier cet audit?
Ah bon, c'est une très bonne question. Il faudrait savoir que les audits ont été prévus dans l'avenant 5. Et l'avenant 5 constitue la résultante des attentes consenties entre les deux parties. Ce qui fait que les résultats de ces audits vont essentiellement conforter le parti. Pourquoi? Parce que au moins, il y aura un élément de transparence et de la bonne gouvernance qui sera prôné. Et ce sont des acquis qui vont nous permettre de pouvoir voir qui fait quoi, où, comment et de quelle manière.
Merci Jean-Claude Mputu, vous êtes porte-parole de la coalition des ONG Le Congo n'est pas à vendre, CENPAV en sigle. On sait que votre organisation fait le monitoring de la mise en œuvre de ces contrats sino-congolais. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain en termes de réalisation des ouvrages deux ans après la renégociation de ces contrats?
La première chose à dire, effectivement, il y a eu des travaux qui ont commencé. On voit sur le terrain, mais je pense que c'est que le peuple congolais doit savoir si l'exploitation a servi les intérêts du Congo. Est-ce qu'il y a eu rééquilibrage? Est-ce que la partie chinoise et la partie congolaise ont les mêmes gains dans ces contrats? C'est là où CENPAV intervient pour dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la renégociation n'a pas réussi à combler les trous. Je donne un exemple, le montant des bases du contrat estime que quand le prix du cobalt atteint 8 000 $, la partie chinoise doit verser 324 millions par an par rapport à si le prix du cobalt évolue autour de 8 000 $. Si le prix baisse au-delà de 7 000 $, les deux parties doivent se retrouver pour réévaluer la contribution de la partie chinoise. Mais au-delà de 8 000 $, les Chinois continuent à verser la même somme, 324 000. Or, quand on voit sur les trois dernières années ce qui s'est passé, c'est que le cuivre a été toujours au-delà de 8 000 $. Et quand nous faisons une estimation sur base de ces prix, en trois ans, le Congo a perdu plus de 300 millions de dollars malgré la renégociation. Donc, il y a un problème de fonds qui doit être réglé au-delà de quelques réalisations qu'on voit sur le terrain.
Merci. Lems Kamonia, vous êtes expert en économie et finance. Vous êtes également expert en transport multimodal. Comment la RDC devrait-elle procéder chaque fois qu'elle devrait conclure des conventions avec ses partenaires pour ne plus vivre ce que nous déplorons actuellement?
Oui, merci. C'est une question qui est pertinente. Dans toute négociation, chaque partie doit d'abord savoir qu'est-ce qu'elle apporte sur la table et qu'est-ce qu'elle attend à recevoir de l'autre partie. Ça, c'est le principe de base de chaque négociation. S'agissant des contrats miniers, je crois que le plus important devrait savoir quelles sont les réserves estimées et certifiées des gisements que nous voulons mettre dans les partenariats. On dégage un cours moyen, on regarde qu'est-ce que nous devons gagner et quel est l'apport de l'autre partie. Et à ce moment-là, nous savons dans quoi nous nous engageons. Alors, pour ce type de contrat où vous avez les dividendes qui proviennent d'une entreprise minière sont directement préaffectés pour développer les infrastructures, l'élément le plus important, c'est de savoir la capacité technique des partenaires qui sont engagés à consommer les fonds disponibles. Merci. Tout comme aussi, c'est se rassurer que les partenaires avec qui nous avons signé aient de bonne volonté pour que chaque année qu'ils libèrent la totalité de ces engagements et non pas continuer à les garder. Ce sont là autant de garanties que nous devons avoir pour nous rassurer qu'il n'y aura pas un défaut dans le cadre des contrats que nous signons.
Fin de cette édition du journal coordonné et supervisé par Lévin Bringavoubou et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.